Vous êtes là. Bienvenue dans la jasette numéro 64, les amis. On va prendre une petite gorgée de le Red Plains. C'est un chenin blanc qui vient d'Afrique du Sud. J'aime beaucoup les vins d'Afrique du Sud. Je viens de faire un post sur Instagram. Je dis vin blanc, vendredi et jasette numéro 64. C'est parfait. C'est le bonheur. Je commence ça avec une suggestion d'épisode de podcast. Je t'en ai parlé souvent. Puis là, il y en a sorti un autre bon. Je te parle du Joe Rogan Experience. Tu sais comment j'aime le UFC, comment j'aime le MMA en général. Toutes les organisations qu'il peut avoir, Bellator, LFA, Cage Fury, TKO à l'époque, bon, Pride, etc. Joe Rogan, dans son émission, le Joe Rogan Experience, il y a une émission dans son émission qui s'appelle le Joe Rogan Experience MMA Show, OK? Là, cette semaine, c'était le 98e épisode. Il recevait Luke Thomas. Luke Thomas, qui est un journaliste de renom aux États-Unis, un journaliste sportif, qui suit les activités de la boxe et du MMA pour CBS Sport. Donc, ça, c'est un gros poste en passant, là. Donc, c'est une grosse pointure. Il l'a reçu. Ils ont fait 3h40 pour un épisode de podcast qui est, ma foi, rempli d'un bout à l'autre. J'ai bien aimé ça. Je suis comme dépeigné aujourd'hui. Ça a été toute une entrevue. Entre autres, ils ont parlé de Anderson Silva. La carrière d'Anderson Silva, s'il devrait prendre sa retraite. Évidemment que les deux étaient d'accord pour dire que Anderson devrait prendre sa retraite suite à son dernier combat contre Uriah Hall. Qui a perdu, je pense, c'est une 7e défaite en 8 combats. Mais comme c'est Anderson Silva, Dana White le laissait se battre, mais là, il a dit que c'était fini, là, qu'il laisserait plus Anderson Silva, du moins se battre dans l'UFC. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont parlé d'un combat entre Anderson Silva, puis à l'époque, peut-être que si tu suis ça, tu vas t'en rappeler, Lee Murray, qui était un gars de Liverpool à Londres, qui était une bête à l'époque. Puis Anderson a commencé à faire sa renom. C'est de ça qu'il parle. Il a commencé à faire sa renom, lui, quand il s'est rendu au Cage Warrior. Cage Warrior, c'était une organisation de Liverpool. Ça se faisait dans les sous-sols miteux, remplis de moisies. Dans une cage, mais une cage... la cage est en nylon. Fait que c'était tellement dangereux, là, c'était pas solide. Puis il avait fait un combat contre Lee Murray, justement, qui vient de Liverpool, qui restait à trois rues de cet endroit-là, tu comprends-tu? Fait que quand Lee Murray est accueilli, là, tu comprends que c'est le favori de la foule. Puis ce qu'il y a dans les estrades, là, c'est le trois quarts, premièrement, c'est blanc, c'est juste des blancs. Puis le trois quarts de la salle, c'est des hooligans. Tu comprends-tu? Fait que Anderson Silva, il arrive là. On connaît Anderson Silva. Il est assez noir, là. Je veux dire, je dis pas ça pour être raciste, là. C'est juste qu'il a la peau très noire, là. Ça, il est pas mulâtre, c'est ça. Je veux dire, c'est évident que c'est un noir, tu sais. Puis, c'est là qu'il a fait sa renom. C'est là qu'il est arrivé. Il a fait un sacré combat. Il a dominé, puis il a gagné la ceinture des moyens au Cage Warrior, puis tu voyais, quand il était sur le bord de la cage avec Lee Murray, Lee Holligan qui criait des noms, on n'entendait pas ce qu'il disait, mais j'aimerais pas ça l'entendre, tu comprends-tu, ça criait, il y a des gars qui voyaient baver tellement, qui étaient fâchés de voir, puis Anderson Silva, il était tellement, c'était tellement tout un personnage, puis il était tellement surhomme à cette époque-là, quand le combat est fini, au lieu de rester humble, il saute sur la cage avec le drapeau du Brésil, puis il montre ça à la foule qui l'a eu. Je veux dire, à cette époque-là, Anderson, ça prenait des couilles, t'sais, en métal pour... stainless steel, en métal pour aller à Liverpool. On sait comment ils sont tough, les Anglais de Londres, devant une foule de hooligans, dans un genre de sous-sol moisi, aller gagner la ceinture. C'est là qu'il a fait sa renom. Puis après ça, il y a eu un contrat avec éventuellement avec le UFC. Donc, les gars, ils parlaient de ça. C'était vraiment intéressant. Après ça, ils ont parlé des stéroïdes dans le sport, mais pas juste dans le MMA, un peu dans tous les sports. Puis j'aimais beaucoup la façon de penser de Luke Thomas à ce niveau. C'est un peu comme la mienne. Quand on sait qu'il y en a partout des stéroïdes, pourquoi on s'acharne à les acharner, à s'acharner à pas les utiliser? Moi, je suis plus dans le sens que mon opinion est pas mal comme celle de Luke Thomas. On est des adultes, vive et laissez vivre. Si tu veux te maganer la santé avec des stéroïdes, c'est pas mon problème, c'est le tien. Si tu acceptes ça, c'est ton problème. OK? Ça me fait penser aux joueurs de football qui essayent de poursuivre la NFL présentement. Regarde, t'as accepté de jouer toutes ces années à te faire frapper sur le casque, puis à frapper sur le casque avec ta tête. Pareil comme les joueurs de hockey qui aujourd'hui se plaignent. T'as accepté de faire le sport, là. Personne t'a cassé le bras, là. En tout cas, peut-être que mon opinion diffère de bien du monde, là, mais c'est ce que je pense. Après ça, je suis en train de barrer ce que j'avais noté ici. Anderson Silva. Ah oui! Luke Thomas, il parlait d'un sujet que lui parle souvent sur CBS Sports. Un syndicat pour les combattants de MMA. Puis je pense que ça serait une bonne chose. Puis ils en ont parlé longuement. Puis même si Joe Rogan travaille encore pour le UFC, il a été capable d'en jaser honnêtement. Puis on était tous d'accord là-dessus. Puis moi, j'étais d'accord avec eux que les gars méritent plus d'argent. C'est le parent pauvre des sports au niveau monétaire. C'est sûr que le UFC fait beaucoup pour les combattants. Ils ont des assurances à vie, des assurances médicales. Ça fait une différence. Puis aussi, pendant la pandémie, aucun employé était mis dehors. Là. Tout le monde a travaillé. Donc, mais je serais d'accord que là, tu sais, présentement, les combattants ont 20% des revenus du UFC. Je pense que c'est pas assez. Il faudrait peut-être monter ça autour de 30-35. Là. Je pense que ça serait plus logique. Je crois, en tout cas. Donc, ils ont parlé de ça. Et comme je te disais, ils ont parlé de l'argent des combattants qui ont fait au UFC. Puis, ils ont parlé d'une vieille organisation aussi. En parlant de... D'ailleurs, le combat de Limerick contre Anderson Silva, va voir sur YouTube. Sûrement que tu vas le trouver. Moi, je l'ai facilement là, dans ma librairie d'archives à cause du UFC Fight Pass, parce que je suis abonné au UFC Fight Pass. Mais je pense que si tu es abonné au UFC Fight Pass, ben c'est facile. Là. Tu vas dans l'onglet recherche puis tu vas l'avoir tout de suite. Sinon, essaye sur YouTube, tu vas voir, c'est assez quelque chose à regarder. Ça m'a donné le goût de revoir ça, ce vieux combat-là, puis ça s'en va en décision, c'est quelque chose. Puis Limerick, d'ailleurs, je me rappelais de Limerick, puis c'était le fun de le revoir combattre. Ce gars-là, je sais pas si tu savais, mais il s'est fait arrêter, il a fait un vol de banque à Liverpool là, après sa carrière. Là. Je pense qu'il est encore en prison, là. Il avait braqué une banque. Un autre sujet qu'ils nous ont parlé, ils ont fait un bon 25 minutes, 30 minutes là-dessus, Bulldog Fight. Bulldog Fight, faut savoir que c'est une organisation à l'époque qui avait plein d'argent, avait les mains pleines, les poches pleines. Puis le mécène de cette organisation-là, c'est un Russe qui faisait sa business sur les jeux, sur les paris Internet. Mais comme on sait, il y a des lois qui ont passé après, ça a tout fait tomber sa business. Mais pendant un certain temps, il a fait 4-5 gros galas. Bulldog Fight, il y a eu des gros combattants qui ont été là. Des gros noms qui ont été là, puis il y en avait fait un sur le bord de la plage, un dans un aréna sur la glace. En tout cas, il explique tout ça. Moi, je me souvenais de ça, mais c'est le fun de les entendre parler là-dessus. C'est vraiment folklorique. Là. Fait que je te conseille cet épisode-là. C'est 3h40. Regarde, c'est beaucoup de temps, mais tu peux l'écouter en partie, tu sais. Puis, mais ouais. Très, très intéressant, Joe Rogan Experience, c'est même show, numéro 98 avec Luke Thomas. Après ça, en parlant de UFC, de MMA, j'ai une dernière nouvelle. Il y a un jeune phénomène qui s'en vient que j'ai vu cette semaine au Dana White Contender Series. Il a 23 ans, c'est la première fois que je le voyais ce mercredi. J'ai fait une petite chronique UFC avec les gars des agents libres mardi. puis je parlais des prospects. Mais là, mercredi, j'en ai vu un nouveau, là. Tu sais, je parlais de Chimaïev, entre autres, là. Et là, j'en ai vu tout un numéro. C'est un Chilien, m'a essayé de prononcer son nom comme il faut. Ignacio Bahamondes. Ignacio Bahamondes, 23 ans, qui vient du Chili. 11 victoires, 3 défaites, 8 KO. Le gars vient du taekwondo. Il utilise encore beaucoup son taekwondo dans la cage. Il a gagné par KO au premier round avec un front kick, je dirais en français, un coup de pied par en avant, là. Ouais, drette sur le menton de l'autre combattant. Puis évidemment, il a obtenu son contrat du UFC, son contrat de 3 combats. Et c'est sûr qu'Ignacio est très jeune à 23 ans, là. Faut savoir qu'à 23 ans au UFC, c'est très, 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 très jeune. Mais j'ai hâte de voir ça. Très excité par sa vitesse, sa force, son enthousiasme. Donc, retiens ce nom-là, Ignacio Bahamondes, 23 ans du Chili. Il est à surveiller. Qu'est-ce que j'avais pour toi? Ah oui, hey, c'est-tu qu'est-ce? Attention, mesdames et messieurs! Ladies and gentlemen, children of all ages, c'est le retour. Oui, vous l'avez demandé par email. Vous m'avez écrit des courriels et vous me disiez, mais sont où, barbu, tes fun facts? Ben, ils sont de retour dans la jasette numéro 64, les fun facts! Savais-tu, la nation barbu, que la messagerie texte en 20 ans cette année. Quand même incroyable, hein? Au début, ça devait être les BlackBerry qui ont commencé ça, j'imagine. Tu te souviens-tu aussi que les flips... Écrire, texter qu'un flip, là, c'est du domaine, là... de la patience d'un moine tibétain, esti. Hey, écoute bien ça. Certains scientifiques, c'est pas des piments, là. Certains scientifiques estiment qu'il existe jusqu'à 100 000 civilisations extraterrestres intelligentes dans notre seule galaxie. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je le crois. Ouais. Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Ben, s'il y en a 100 000 des civilisations, ben, laisse-moi te dire que la plus épaisse, c'est nous autres. Oh, celle-là, ça m'a surpris. L'inhalation d'hélium à partir d'un ballon peut vous tuer. Fait que des fois, on fait ça en face, hein. On avale de l'homme, puis on parle, puis on trouve ça drôle, mais t'es marrant dessus, t'es d'une fête d'enfant, tu pognes la ballonne, puis tu pètes. La nation barbu, savais-tu que seulement 4% des bébés naissent à leur date réelle d'accouchement? J'aurais pas de misère à croire ça, parce que les deux miens sont pas nés à la date qui était supposée de naître. Donc, ça rentre dans le 4%, là. La nation barbu, tu savais-tu qu'un enfant de 4 ans pose en moyenne 437 questions par jour? Peut bien m'avoir mal à la tête, Saint-Simonac. 437 questions par jour! Hey, c'est à peu près 900 questions par 2 jours. 1800 par 4 jours. Ciboire, hein? Faites des enfants qui disaient. C'était, chère nation barbu, tes fun facts. Je vais essayer de t'en faire à toi et Josette, là. J'ai eu bien des courriels là-dessus, là. Regarde, moi t'en mettre 5-6 par Josette. Bon, je voulais te parler du prochain stand-up à Nouveau TV, à VTL, avec Marilyn Jonca. C'est un peu un relent de En route vers mon premier gala. J'aime beaucoup l'humour. Est-ce qu'il y a trop d'humoristes? Est-ce qu'il y a trop d'humour? Je pense pas. Pis surtout en ces temps difficiles, c'est le fun de rire un peu, d'être relax. Pour moi, l'humour, c'est un art à part entière. C'est difficile de faire rire. Déçu du choix de l'animatrice, moi, j'aurais pas pris Marilyn Jonca. J'ai rien contre Marilyn Jonca, mais quand à la télévision, quand les producteurs, les réalisateurs se mettent à aimer quelqu'un, là, ben on le voit partout. Puis moi, je pense que Marilyn Jonca à VTL, on la voit beaucoup. Comme je te dis, j'aime bien son style. Je l'aime beaucoup avec les grandes crues. Mais j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. En tout cas. Le panel est bien choisi de mon prochain stand-up. Louis Morissette, Marisa Manza et... excuse-moi, je prononce mal les noms. Je m'excuse. Puis P.A. Méthode. Gros coup de cœur pour P.A. Méthode. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon technique de Louis Morissette de disséquer les humoristes. Et j'aime beaucoup le côté humain de Madza. Vraiment beaucoup. En ce qui a trait aux humoristes, je trouve que j'aime pas le format de le prochain stand-up. Je trouve qu'il parle trop aux panélistes au début de l'émission. On s'en fout de ça. Puis ça coupe beaucoup de temps. C'est un gros 3 minutes sur une demi-heure. C'est un gros 3 minutes sur le show qui coupe pour les... on veut juste les voir juger. On les connaît déjà, les trois. On n'a pas besoin. Puis on n'a pas besoin d'un intro si long que ça de Marilyn Jonca. On n'a pas besoin de ça. C'est pas ça qu'on veut. Moi, je pense qu'on aurait pu insérer plus de concurrents. Et puis en passant, je sais pas si on fait beaucoup de recherches ou beaucoup d'auditions pour les concurrents. Mais ça me semble, c'est pas fort. C'est-tu moi? Il y en a, là. Non. Peut-être que moi, je compare à ce que j'ai vu en route vers mon premier gala, qu'on a vu des gens solides, là, vraiment. Je sais pas. Donc, mitigé sur le prochain stand-up. Vraiment mitigé sur ce show-là, vraiment. Donc, c'était pas mal mon opinion. Par la suite, qu'est-ce que j'avais pour toi? Ah oui, la politique américaine. La politique américaine. Avec ce qui se passe, c'est que je t'en parlerai pas longtemps. Parce, hey, comme sur Twitter, là, le monde, ils font juste parler de ça. Là, c'est à donner à des mal de tête, les enfants. Je t'en parlerai pas longtemps des présidentielles américaines avec Biden puis Trump. Mais êtes-vous surpris du résultat? Tout le monde, me semble, je vois les journalistes, tout le monde fait comme si t'as bien surpris. Moi, je suis pas surpris, pas en tout. Puis ce qui risque d'arriver, ben je le souhaite pas, là, c'est pas ça que je veux, là. Je souhaite pas ça à personne. Mais on est sur le bord d'une guerre civile, là, d'une civil war, là. J'espère que ça arrivera pas. En tout cas, de ce temps-là, les Américains paraissent très mal. Puis nous, on est collés sur eux autres. C'est nos voisins les plus proches qu'on veut ou qu'on veut pas, là. Quand eux autres, ils vont mal, nous autres, ça touche à notre économie aussi. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'étais un peu... je savais que Donald Trump, il était égocentrique. Tu sais, je connais pas grand-chose à la politique, moi. Je savais qu'il était égocentrique, mais jamais j'aurais pensé qu'il aurait mis en doute les résultats, par contre. Puis se chicaner pour ça. C'est comme un non-sens, parce que s'il continue, c'est sûr que ses partisans, eux autres, vont vouloir aller en guerre avec ça. Puis c'est pas une bonne chose. Mais bref, je t'en ai parlé assez longtemps. Je veux pas étirer mon temps sur quelque chose d'inutile. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ça coupe raide, hein? Mais bon, bref, moi, je finis mon vin blanc, m'a découpé ça, puis après ça, je vais t'envoyer ça, j'envoie ça d'ailleurs au début au Patreon, là, évidemment. Comme je disais, quand je faisais du CB dans le temps, puis que j'étais Red Lobster, popoute, ciao! Tu veux du swag? T'es sérieux à propos de ta barbe? Tu veux une coupe de cheveux dans le vent? Ben j'ai le spot pour toi et tes enfants. Alex le Barbier. C'est facile, tu peux réserver en ligne alexlebarbier.ca ou tu peux appeler directement au 450-602-7022. Luc Normand, CPA. C'est plus qu'un comptable, c'est un gars de terrain. C'est un représentant financier. Luc Normand, CPA, couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. C'est un VP virtuel aussi. Financement, subvention, production, vos RH, la paye. C'est simple. Luc Normand, CPA.